écoutez Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com. Pour cette édition de Logosphère, nous recevons Joanne Mirand. Bonjour.
Hello.
Joanne Mirand, vous êtes musicien, saxophoniste, arrangeur, compositeur. Vous êtes formé au Conservatoire National de Musique et de Danse. Vous êtes directeur et chef d'orchestre, notamment du Red Star Orchestra. Vous venez nous présenter un album intitulé La Marche du Chien Noir, qui est un hommage à Erik Satie, c'est bien ça ?
C'est tout à fait ça.
Qui est un album concept où vous mettez en musique la marche que Satie effectuait chaque jour entre Montmartre et Arcueil, où il résidait et où il composait. Vous allez nous expliquer justement tout ce projet et ce que vous avez développé à l'intérieur de cet album. Un album qui passe du jazz au free jazz, à la musique contemporaine, électronique. C'est un album assez riche, dense, avec beaucoup de propositions. Joanne Mirand, avant de parler de cet album, est-ce que vous pourriez nous présenter votre formation de musicien, votre parcours? Il me semble que vous venez du jazz pour le coup.
Oui, le jazz, en fait, je m'y suis mis à l'adolescence. Moi, j'ai commencé par la clarinette classique, en fait, quand j'avais 6 ans. Mais à l'époque, c'était plus pour faire plaisir à mes parents. Même si j'y trouvais un certain plaisir, je ne m'y investissais pas beaucoup. Après, j'ai arrêté à 13 ans et à 15 ans, j'ai repris au sax, et pour le coup de ma propre initiative. Et c'est là que je me suis mis au jazz. Et c'est aussi là que j'ai découvert Satie, en fait, grâce à une amie qui m'a joué du Satie au piano. Et j'ai été vraiment touché par cette musique que je me suis mis pour le coup à jouer aussi au piano et à analyser. En fait, c'est le premier compositeur dont j'ai cherché en fait à comprendre le langage vraiment musicalement. C'est vraiment d'analyser les suites d'accords et les mélodies par rapport aux accords. Et en fait, à l'époque, j'improvisais, mais je connaissais pas les règles du jazz. Donc j'improvisais à l'oreille et en fait je m'écrivais des solos pour jouer sur des grilles de jazz. Et mélodiquement, en fait, Satie m'inspirait beaucoup. Enfin, son esthétique était vraiment très proche de... Enfin, en fait, c'était un échange. Satie m'influençait et je me retrouvais dans Satie naturellement. Enfin, c'était vraiment, comment dire, un coup de cœur, en fait, musical. C'était vraiment profond. Et pour le coup, avec ce disque, c'est l'occasion pour moi de boucler la boucle, hein, d'une certaine manière, en rendant hommage à Satie qui m'a tellement donné.
Par ailleurs, vous avez eu de nombreux projets en matière musicale, avec notamment des orchestres, le Red Star Orchestra auparavant. Ah. Oui, est-ce que vous pourriez nous parler justement du Red Star? Comment s'est-il formé?
Le Red Star, au départ, c'était on l'a monté en 2009. Et au départ, c'était pour s'amuser en fait à jouer les partitions classiques de big band, d'Ellington, de Count Basie, etc. Et à l'époque, je jouais avec Olivier Ruiz, dont j'ai été l'accompagnateur pendant 8 ans, de 2006 à 2014. Et Olivier est très fan de jazz des années 40-50. Et pour le coup, je lui ai proposé de faire un disque ensemble avec le Red Star. Et c'est là qu'on a commencé à travailler sur ce projet Olivia Sings for the Red Star, qui est un disque qui est en fait un 6 titres qui est sorti sur... chez Polydor, parce que Polydor n'ont pas voulu en fait qu'on sorte un album entier, parce que, je les cite, ils voulaient pas qu'Olivia passe pour une chanteuse de jazz.
D'accord.
Et du coup, ils ont pas voulu sortir un disque entier. Ils ont sorti que 6 titres qu'on peut trouver sur Spotify partout. Et par contre, on a fait une vraie tournée d'une douzaine de dates dans toute l'Europe avec elle, dans ce répertoire uniquement de jazz. C'était super. Donc ça, c'était le début. Et après, j'ai proposé après à Thomas de Pourquerie de faire un projet ensemble. Et il m'a demandé qu'on fasse ça autour vraiment des standards de jazz qu'il préférait. Donc c'est vraiment des standards très très connus. Non, il n'y a pas Summertime dans le disque, mais on le jouait sur scène. Il y a My Funny Valentine, il y a Night and Day, My Way, il y a Lush Life. Enfin, vraiment que des gros saucissons, Speak Low, et qu'on a arrangé à notre sauce, enfin à ma sauce, mais lui participait aussi, il me disait dans quel esprit il voulait que ce soit tel ou tel morceau. Donc ça, c'était notre deuxième projet qui s'est enregistré en 2016 et on a fait les derniers concerts en 2019. Et après, donc, je suis passé au projet Satie avec le Red Star, qui a beaucoup évolué en fait depuis le temps où on jouait du Ellington.
Donc c'est un projet au long cours pour le coup.
Oui, vraiment, bah, c'est vraiment une aventure autant musicale qu'humaine parce que il y en a qui sont avec nous depuis le début, qui sont devenus des super amis. Ça fait quand même un sacré bout de temps.
Très bien.
Et donc j'ai enchaîné avec le Satie. J'ai travaillé 6 ans sur ce projet. C'était une sacrée aventure.
C'était à votre initiative ou à l'initiative du label? Comment ça s'est composé?
C'est moi qui ai trouvé ce projet.
D'accord.
Et d'ailleurs, il a fallu un peu de temps pour les convaincre. Mais en fait, il y a un film dans le disque, hein, tu as vu. Et le film a pas mal participé au fait de les convaincre parce qu'en fait, ils voulaient que ce soit accessible, que le spectacle du disque soit accessible aux enfants. Et je me suis dit, un film, pour ça, c'est bien. Et aussi, en fait, dans Broadway's, donc dans le projet d'avant, il y avait toute une histoire. Il se trouve quand j'écris, en fait, j'ai pas mal d'images qui me viennent. J'ai toujours l'impression de raconter une histoire d'un personnage ou d'une situation. Et donc, dans Broadway's, ça racontait l'histoire d'un musicien qui est à New York, qui au début galère, et puis connaît le succès, et puis après tombe dans l'oubli et la dépression, et finit par quitter New York sur un bateau. Bref, et donc je racontais cette histoire à un des trompettistes, et il m'a dit, mais pourquoi les gens, ils savent pas ça, en fait? Pourquoi les gens, ils connaissent pas l'histoire? Ça les intéresserait vachement de regarder le concert en sachant ça. Et donc, je me suis dit qu'il avait peut-être raison. Et là, sur ce projet, il m'a semblé judicieux d'expliciter en fait la narration en fait que raconte la musique, l'histoire donc de Satie qui marche de Montmartre à Arcueil. C'est une marche qu'il faisait tous les jours parce que le soir, il jouait dans les cabarets, dans les cafés-concerts. Il accompagnait des chanteuses, il jouait. Et il gagnait sa vie comme ça, en fait, et donc il passait la nuit à Montmartre. Et le matin, il rentrait chez lui, j'imagine, ça devait être assez tard, parce que ça devait finir tard, ces soirées. Et pendant qu'il marchait, il composait, en fait. Et donc, j'ai lu dans un article que c'était pendant ses marches qu'il a composé, en fait, tous ses morceaux. Enfin, pas tous, mais bref, une bonne partie. Et donc, j'ai bien aimé l'imaginer dans Paris, marchant, et être inspiré par une scène quelconque avec des passants ou une lumière particulière sur des monuments ou quoi. Enfin. Et donc, je l'imaginais composant comme ça et je me suis dit, mais je vais raconter ça, en fait. Je vais raconter ça en musique et je vais raconter comment, en fait, ces morceaux lui venaient en tête. Et du coup, ces morceaux sont dans le disque teintés de ces émotions que j'imaginais qu'il devait ressentir. Par exemple, la Gymnopédie 1, je l'ai imaginé la composer dans une espèce de remontée d'opium de la veille. Donc, il serait dans un truc un peu psychédélique. Et petit à petit, en fait, il redescendrait sur Terre avec la descente que les drogués connaissent bien. La redescente sur Terre qui n'est jamais aussi agréable que la montée. Et donc, on entend dans l'arrangement, en fait, le début qui est très mélodieux, très serein, et petit à petit, ça devient de plus en plus angoissant. Et en fait, tout le disque est construit comme ça, en fait. C'est les émotions qu'il ressent pendant qu'il se balade.
Dans cette présentation, on peut le dire même graphique.
On
voit cette traversée de Paris avec chaque morceau qui constitue une sorte d'arrêt, d'endroit dans la ville. Ça commence par Montmartre et ça finit par Arcueil.
Voilà, en fait, il y a trois compos dans le disque. Il y a Montmartre, Châtelet et Arcueil. Donc il jalonne en fait son parcours. Et entre ces trois donc, lieux bien précis, il y a une sorte d'errance en fait, à la fois physique et émotionnelle, qui est racontée par la musique et par le film.
Eh bien, vous parliez à l'instant justement des gymnopédies. Eh bien, on va écouter un extrait de cette composition, de ces arrangements que vous avez pu faire autour des gymnopédies d'Eric Satie avec le Red Star Orchestra. Joan Mirand, on vous retrouve juste après.
Ça roule.
Écoute de Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com. Nous accueillons Joan Mirand qui voilà, est à la tête de ce projet La Marche du Chien Noir, qui est un hommage à Eric Satie, qui vient de sortir au Label Bleu en ce mois d'octobre passé 2024. On parlait à l'instant des gymnopédies, c'est une réinterprétation des morceaux d'Eric Satie. Comment avez-vous abordé justement cette musicalement la réinterprétation, l'arrangement de ces morceaux?
Mais en fait, j'ai envisagé la musique de Satie comme un matériau de départ. Je me suis pas dit je vais arranger sa musique et qui est comme, comment dire, lui mélangé à moi. En fait, j'ai pris sa musique comme vraiment si elle m'appartenait. En fait, je me suis approprié sa musique. Et pour le coup, j'ai exploré diverses manières d'arranger. Il y a des morceaux où je me permets de réharmoniser, de changer complètement le rythme, la forme. Et il y en a d'autres où j'ai superposé mon écriture à la sienne, par exemple dans Vexation. Il y a le piano, il y a l'écriture de Satie tout du long. Mm-hmm. Et en fait, par-dessus, il y a une espèce de fugue un peu ellingtonienne. Enfin, ellingtonienno-mirnienne, on va dire. Qui se développe petit à petit et qui finit par prendre le pas sur Vexation. Il y a d'autres morceaux, les sports et divertissements, où carrément, j'ai juste orchestré. Mm-hmm. J'ai gardé vraiment le matériau de Satie. Et donc j'ai tout réorchestré avec le big band, mais par contre il n'y a pas une seule note qui est pas de lui. Et sinon bah il y a les compos, forcément il y a les ogives aussi où c'est carrément son écriture, mais alors pour le coup c'est censé être joué très calmement, très posément, c'est un peu des méditations. Et là par contre c'est complètement hurlé par l'orchestre pendant que la rythmique joue une scène de guerre. En fait ce morceau là il exprime l'ambivalence que j'imagine que Satie devait avoir devant les édifices religieux. Parce qu'en fait, Satie était très mystique. Il a d'ailleurs fondé une église pendant sa vie qui s'appelait, que je dise pas, l'église métropolitaine d'art de Jésus conducteur, voilà, l'église métropolitaine d'art de Jésus conducteur, c'est un peu long. Mmh. Il avait fait un logo et tout, et en fait, il en était le seul membre. Voilà, c'était Satie, il était particulier. Donc, il était très mystique comme garçon, mais par contre, il refusait toute forme d'autorité, il était très anarchiste. Donc, je pense que quand il était face à une église, il devait ressentir un mélange de sentiments. Ça devait être un peu la guerre en lui, donc les ogives, c'est ça que ça exprime, c'est sa guerre intérieure. Dans une... Voilà, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait ma manière d'arranger les morceaux, c'est aussi pour décrire des émotions, les émotions que j'imaginais que Satie pouvait éventuellement ressentir en traversant Paris et en ayant cette musique qui lui montait en lui.
Donc c'est une forme d'interprétation de l'intériorité, on pourrait le dire comme ça, d'Eric Satie.
Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, s'il composait en marchant, j'imagine que ça devait venir de quelque chose. Enfin, c'est ça que j'ai voulu imaginer. Et après, quand il rentrait chez lui, il couchait tout ça sur le papier. Mais au moment où ça lui venait en tête, il devait ressentir des choses particulières, j'imagine. Et moi, c'est ce que j'ai voulu exprimer. En fait, ce disque, c'est censé être une heure dans sa tête, quoi. Mm-hmm. Une heure dans la tête de Satie. Et donc, avec le film, on peut le voir aussi. On est à la fois dans sa tête et on le regarde
dans les rues,
se balader. Donc, en fait, les ogives, c'est quand il arrive à Saint-Eustache. Et a priori, quand il marchait de Montmartre à Arcueil, il était a priori obligé de passer devant Saint-Eustache. Donc, dans le film, on le voit passer devant. Et le film montre, en fait, la guerre qu'il y a en lui. On voit l'église qui se transforme et que ça, les vitraux deviennent des missiles et tout. Enfin, c'est l'animateur, là, il a fait un boulot génial. C'est Grégory Thomas, c'est un vieux pote à moi. Donc voilà, tout ça, c'est à la fois rendu musicalement et graphiquement par le film.
Est-ce que vous pourriez nous parler des solistes qui interviennent aussi durant ces morceaux?
Oui, tout à fait. Bon, en fait, au départ... je voulais que le soliste principal soit Arnaud Roulin, donc parce qu'il fait la partie du piano et en fait il joue Satie, en gros il joue le personnage de Satie et le reste de l'orchestre exprime un peu en fait Paris, donc c'est le rapport entre les deux qui, pour parler tout à l'heure, on parlait tout à l'heure d'arrangement. Et au final, chez La Belle Bleue, il tenait pas mal à ce que Édouard Perrault, qui est un grand soliste, que je suis très, très fier d'avoir avec moi dans ce projet, qui soit sur la pochette. Donc, il y a Arnaud, il y a Édouard, il y a Gianni Caserotto, qui est un super guitariste, et Blaise Chevalier, qui est un super bassiste aussi. Donc, en gros, c'est présenté comme un quartet de jazz qui est augmenté d'un orchestre. Et au final, c'est complètement cohérent avec l'écriture. Donc, c'est pour ça qu'ils sont sur la pochette et que les autres sont à l'intérieur. Voilà, c'est ça l'idée.
On va écouter un autre extrait, Châtelet. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
Bah, Châtelet, pour le coup, voilà, c'est une de mes compositions. Et pour le coup, c'est Satie qui arrive à Châtelet. Alors, j'imaginais à l'époque, Châtelet un peu bah, comme c'est aujourd'hui, mais ça devait être encore pire, avec les calèches, les vélocipèdes, plein de gens. Et donc, j'imagine Satie qui est un peu affolé là-dedans, et, parce qu'il n'aimait pas trop les gens. Et donc, voilà, c'est très speed. Il faut imaginer Satie un peu affolé, quoi.
Eh bien, on va écouter Satie un peu affolée à Châtelet. Un extrait de cet album, La Marche du Chien Noir, hommage à Satie de Joan Miron. Toujours à l'écoute de Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9 autour de cet album La Marche du Chien Noir hommage à Satie de Joan Miron qui nous fait le plaisir d'être dans les studios aujourd'hui même. À l'instant c'était Châtelet, un morceau que vous avez composé voilà, autour de la musique d'Éric Satie.
Mais en fait ça c'est une compo mais il y a une petite citation de la première Gnossienne dans le solo piano.
On parlait tout à l'heure du fait que cette musique était accompagnée d'un film. Il y a quelque chose de très filmique, cinématographique dans cet album. Vous avez travaillé avec un graphiste qui a fait ce film d'animation qui accompagne tout cet album. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de la genèse de ce film ?
Et ben en fait, j'ai imaginé, donc, comme je vous disais tout à l'heure, de mettre en musique la marche que Satie faisait tous les jours. Donc bah, déjà, le décor, c'était clair que c'était Paris. Et puis après, la manière de transcrire les émotions que Satie ressentait, ça a été tout un gros boulot d'imagination. En fait, j'ai fait pas mal de BD aussi quand j'étais gamin, je suis très fan de BD. Et on dessinait d'ailleurs avec l'animateur qui a fait le film. Quand on était ado, on dessinait dans des fanzines ensemble. Donc je le connais depuis très longtemps. Et donc on a un peu un imaginaire commun. Donc pour transcrire les émotions que je voulais faire passer, on a beaucoup parlé ensemble, on a beaucoup brainstormé. Bon, la plupart des idées viennent de moi, mais il a apporté des idées aussi de son côté. Et notamment, par exemple, dans toute la première partie du film, où il va plutôt mal, ça va pas trop, sauf pendant gymnopédie. Au début, c'est assez serein, il se lève, il marche, il est tranquille. Après la gymnopédie, donc il a une espèce de montée d'opium, et donc là, il flotte dans le ciel, en fait. Il est à Pigalle, et on le voit monter petit à petit, et à coup, on est dans le ciel, dans les nuages, et les nuages prennent la forme de Satie. Donc ça veut dire qu'il plane, quoi. Il est high, le gars. Et après, il redescend, et là, ça va plus du tout. Après, c'est Gymno 3, c'est la parano. Et donc, par exemple, pour signifier cette parano, on a créé des personnages, en fait, qui sont que des yeux, qui sont que des formes avec des yeux. Et donc, il marche avec ses personnages autour de lui, et les personnages finissent par disparaître, il n'y a que les yeux qui grossissent et qui le regardent, c'est très stressant. Voilà, donc en fait l'idée c'était de trouver des procédés graphiques pour exprimer l'émotion qui est déjà dans la musique, mais qui du coup se retrouve d'autant plus explicité, quoi. Si on ne comprend pas, on ne pourra pas comprendre.
Est-ce que vous pourriez nous donner la mesure d'Erik Satie aussi dans son époque, dans voilà, ce qu'il a apporté en termes de musique dans
Mais
son
Satie,
époque
en fait,
et ce qu'il
pour
nous
moi,
a apporté
c'est une charnière vraiment dans l'histoire de la musique, à lui tout seul. En fait, à l'époque où la musique était encore... bon, c'était plus tonal, ça devenait modal, ça se transformait vraiment avec Debussy, Ravel, il y avait beaucoup, énormément de choses qui se passaient. On quittait vraiment le classique, mais on n'était pas encore chez Schoenberg, les dodécaphoniques, etc., où là, carrément, on allait entrer dans un autre monde. Et Satie est un peu entre les deux, parce qu'il commence à écrire des choses atonales à l'époque où ça ne se faisait pas encore. Et il a inspiré beaucoup, d'ailleurs, beaucoup de compositeurs de cette période, un peu entre deux, la période pré-Schoenbergienne, où le groupe des Six, notamment, avec Honegger, Poulenc, Darius Milhaud, où déjà des expérimentations quasi atonales commençaient à voir le jour. Donc, pour moi, c'est vraiment un grand précurseur, parce que c'est incroyable d'imaginer que dans sa tête, comme ça, il y a une révolution musicale qui soit passée, quoi, comme ça, le crâne d'un petit bonhomme. Et c'est pour ça aussi qu'il me fascine autant, parce qu'il est vraiment très important dans la musique du XXe siècle.
Sans pour autant avoir été reconnu à la mesure
oui,
de son
talent. Oui, mais c'est
ce que
je disais en début d'émission, c'est qu'à la fois, il traînait avec Picasso, avec Cocteau, avec tous les grands, même avec les surréalistes, avec Aragon, Zara. Enfin, vraiment, il côtoyait tous les grands. Bah, Debussy aussi, c'était son pote. Alphonse Allais aussi, un grand ami à lui. Et il traînait avec tous ces génies. Et par contre, l'Académie ne l'a jamais reconnu. Il n'a jamais réussi à placer un opéra à l'opéra. Et c'était une de ses grandes frustrations. D'ailleurs, les critiques aussi étaient très dures à son encontre. On le lit dans son livre « Les mémoires d'un amnésique », qu'il était très remonté à l'égard des critiques. Parce qu'en fait, il n'a jamais été reconnu par... les puissants, ceux qui avaient le pouvoir d'éventuellement faire de lui quelqu'un de célèbre. Et donc, il est resté, en fait, dans une certaine misère toute sa vie. Il est mort vraiment complètement dans la pauvreté.
Avec, en ayant produit, proposé des morceaux incroyables et magnifiques.
Mais oui, voilà.
Tels que l'Egnosienne 3, que vous reprenez.
Oui, l'Egnosienne 3, tout à fait.
Est-ce que vous pourriez nous en parler avant qu'on en écoute un extrait ?
Mais l'Egnosienne 3, en fait, dans le disque, c'est un peu le générique de fin, en fait. C'est après Arcueil, c'est une fois qu'il est rentré. En fait, à la fin d'Arcueil, c'est la fin de sa marche. Et l'Egnosienne 3, c'est ciao Satie, bonne nuit.
On va écouter la réinterprétation, ou l'arrangement, ou la composition libre.
C'est en quintette, donc on joue
la vous proposez sur les Gnossiennes. Voilà, toujours à l'écoute de Logosphère sur les ondes d'univers. À l'instant, c'était Gnossienne, pardon. On parlait de gymnopédie. Gnossienne d'Éric Satie, reprise par Johan Miran et le Red Star Orchestra. Voilà, on parlait de cet album, du film d'animation. Quels sont... les formes scéniques que vont prendre ce projet, que prennent ce projet.
Mais pour le coup, on va faire les premiers concerts à la fin du mois, là, le 28 à Amiens, le 30 à Paris, au 360. Et on a bossé aussi beaucoup pour que le film soit sur scène et qu'on ne soit pas complètement enfermé dans notre interprétation par le timing du film. Parce qu'il y a beaucoup de passages improvisés, donc c'était aussi un questionnement. Donc on a divisé en fait le film en 32 séquences que moi je déclenche avec une pédale pendant que je dirige et éventuellement que je joue aussi. C'est un peu un numéro d'équilibriste, mais on a répété, ça s'est bien passé. Et comme ça, on peut se permettre... en fait, les séquences, à la fin de chaque séquence, il y a une sorte de boucle qui ne se voit pas forcément. Enfin, j'espère qu'elle ne se verra pas. Et qui me permet, en fait, de faire durer éventuellement plus ou moins longtemps les passages improvisés. Et puis aussi, si on ne jouera jamais exactement les mêmes tempi que sur le disque, donc il fallait prévoir quand même à chaque fois au moins 5 ou 6 secondes par rapport au film tel qu'il est dans le disque, quoi. Donc, et comme ça, on peut jouer librement, et le film est quand même calé sur ce qu'on joue.
Alors, on pourrait appeler ça un ciné-concert, ou quelque chose, ou un concert cinématographique,
ouais, en fait, c'est,
dans
c'est,
l'autre
c'est,
sens, peut-être
c'est, ouais, c'est ça, exactement, c'est un concert ciné, parce que pour le coup, c'est l'image qui est au service de la musique, et pas la musique qui est au service de l'image, c'est... Voilà, ça change un peu. Mais au final, le résultat, c'est comme un ciné-concert. C'est...
Oui.
Si on regarde ça sans savoir, voilà.
Donc, rappelez-nous les prochaines dates.
Le 28 novembre à la Maison de la Culture d'Amiens et le 30 novembre au 360 à Paris.
Très bien. L'album, où est-ce qu'on peut le retrouver?
Il est partout, hein, normalement. Voilà, déjà sur toutes les plateformes et puis... C'est tous les disquaires dignes de ce nom.
Très bien. Quelques autres projets à venir de votre côté, Johan Miran?
Pour le coup, oui, on a fait un disque en quartet avec mon ami Olivier Pellan, qui est un Rennais, que sans doute quelques-uns de nos auditeurs connaissent. Et ça va sortir très bientôt, ça s'appelle le Styx. On a enregistré ça il y a quelques mois, avec donc Olivier Pellan, Philémon Regnault à la contrebasse, Philippe Champion à la trompette et moi au sax, sur des compositions d'Olivier. Ça va sortir sur le label Off Oron, qui est un label brestois.
Et de votre côté, comme Éric Satie, est-ce qu'il y a des compositions, des projets de composition à venir?
De toute façon, moi je compose toujours à côté pour un label de musique à l'image qui s'appelle Art Melodies, qui est dirigé par un super ami à moi qui s'appelle Olivier Samouillant. En ce moment, j'écris sur les péchés capitaux. C'est des pièces pour piano et orchestre à cordes. Donc, sur chacun des 7 péchés, c'est des petites pièces. Toujours dans l'idée de l'évocation d'une émotion, d'une atmosphère.
Très bien. Eh bien, des atmosphères intérieures d'Éric Satie, on les retrouve dans cet album. La marche du chien noir, hommage à Satie de Joanne Miran avec le Red Star Orchestra. Merci d'être
merci
venu.
Merci Mathieu.
Dans nos studios d'univers, c'était Logosphère sur les ondes d'univers, donc, et le www.radio-univers.com, une émission que vous pourrez retrouver en podcast et bien sur le site www.radio-univers.com. Salut.
Me quedaré siempre cubano.